philosophie de l'art, 16 novembre 1981. Père Philippe.
On n'a fait que commencer la philosophie de l'art. Alors avant de nous attaquer à un problème, je crois qu'il est bon de rappeler simplement au plan philosophique, nous nous plaçons au plan philosophique, c'est-à-dire je ne fais pas une critique de l'art, je ne fais pas une histoire des œuvres d'art, j'essaie de comprendre comment l'activité artistique prise d'une manière la plus générale qui soit, in communi, comme dirait saint Thomas, in communi, c'est-à-dire la plus générale qui soit, comment l'activité artistique représente un développement propre de l'homme. L'homme qui ne travaille pas est un homme à qui il lui manque quelque chose, qu'il soit moine ou qu'il ne le soit pas. Un homme qui n'a jamais travaillé, c'est triste. Il manque quelque chose. Je dis tout travail. Alors comment définir le travail? Puisque c'est la grande expérience que nous avons vue, je crois qu'il faut définir le travail tout simplement transformation de la matière par l'homme, transformation d'une matière par l'homme en vue d'une œuvre. L'activité artistique implique toujours une œuvre. C'est propre de l'activité artistique. Une œuvre qui est la transformation de la matière. Qui est la transformation de la matière par où l'homme implique dans la matière quelque chose que la matière n'a pas. La matière, c'est une capacité à être transformée. Je prends la matière là aussi tout à fait d'une façon générale. On peut définir la matière de diverses manières. Il ne faut pas l'oublier. On peut la définir de diverses manières. Et là, en philosophie de l'art, en philosophie de l'activité artistique, je dis la matière, c'est ce qui est capable de transformer. Voyez, même pour le poète, la langue ordinaire est capable de transformer. Et le poète arrivera à transformer cette matière qui est la parole humaine pour lui redonner une vigueur nouvelle. C'est ce que fait le poète. Alors il le fait où? Avec une technique très simple. La technique heideggerienne. On reprend les étymologies qui sont usées. Mais alors, la paille de fer fait que ça recommence à briller. C'est un truc, hein. Si on est plus génial, c'est-à-dire si on a plus d'inspiration, alors ce n'est plus par une technique, c'est tout simplement par des choses particulières. Connaissance, hein, quand Claudel dit connaissance. Naître avec, ça c'est poétique évidemment, naître avec, c'est pas étymologique non plus, naître avec, et ainsi de suite, vous voyez, il y a des tas d'étymologies comme ça, qui sont intéressantes parce qu'elles nous aident à mieux saisir, si vous voulez, le langage habituel qui est usé, notre langage est usé, c'est bien évident, alors on dérape, les vieux pneus, et alors ça n'a plus l'adhérence que ça devrait avoir. Alors le poète reprend et redonne une signification plus profonde. C'est une matière. Le sculpteur, on comprend très bien. C'est facile à comprendre. Et tous les autres, c'est facile à comprendre. C'est une matière qu'on transforme. Et cette matière, c'est l'univers. C'est le donné. Et bien, c'est ça le travail. Eh bien, le travail ennoblit l'homme. De façon générale, le travail ennoblit l'homme. Il y a des travaux qui n'ennoblissent pas l'homme. Et qui ne l'embellissent pas non plus. Il y a des travaux qui sont comme ça parce que il y a des travaux qui abrutissent. Le travail en chaîne. On a tous vu ça, c'est effrayant. Alors au bout de 6 heures de travail, 7 heures de travail, on est complètement abruti. C'est pas normal. C'est pas normal. Le travail devrait ennoblir et c'est pour ça qu'on aime le travail. On doit aimer travailler. Ne pas aimer travailler, mais c'est triste. On doit aimer faire de la philosophie. On doit aimer au moins une partie de la philosophie. Il peut y avoir des parties qu'on laisse un peu trop tomber en disant c'est un peu trop dur pour moi maintenant. Je prends des petits chemins plus faciles. On doit aimer le travail. On doit aimer faire la cuisine. On doit aimer. Ça ennoblit l'homme que de faire la cuisine. Faut pas l'oublier, ça l'ennoblit. Alors on le voit pas tout de suite, hein, parce qu'on a les mains sales après, mais ça on l'oublie quand même, parce que c'est faire quelque chose, c'est réaliser quelque chose, c'est une œuvre. Dès qu'on fait une œuvre, l'œuvre glorifie l'homme, comme les enfants glorifient leurs parents. Mais il y a de temps en temps des ratés, alors ça ne les glorifie pas, n'est-ce pas? De temps en temps ça peut arriver, de temps en temps l'œuvre ratée ne glorifie pas, à ce moment-là on la cache. On met ça dans son tiroir, on le montre surtout pas. On essaie de faire des choses qui peuvent être montrées, parce qu'elles sont montrables. Je pars donc du travail. Et j'essaie d'analyser tous les moments du travail. Parce que le travail est une activité humaine, une activité d'homme. Et typiquement d'homme. C'est même, je crois, l'activité la plus caractéristique de l'homme. Parce que les anges ne travaillent pas. Les théologiens nous disent que les anges ne travaillent pas. Ils ne font pas la cuisine. La cuisine ne peut jamais être angélique. Elle demande d'être humaine. Et quand elle est angélique, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. On a les boîtes de conserve, à la place de la cuisine, on prend les boîtes de conserve, parce que c'est plus vite fait. Non, le travail est humain, typiquement humain. Vous voyez, la morale, elle existe aussi chez les anges. Il y a une morale angélique. Tandis que pas de travail angélique. Le travail est propre à l'homme. Dieu ne travaille pas. C'est un contemplatif pur. D'une contemplation telle que sa contemplation est substantielle et qu'elle a une fécondité extraordinaire d'où jaillit la création. Et la création au sens propre n'est pas un travail de Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu travaille. C'est propre à l'homme. C'est propre à l'esprit lié au corps. Et c'est un des aspects sous lequel ce serait très intéressant, vous voyez, d'aborder le problème du lien entre l'âme spirituelle et le corps. On l'a pas fait, ça. Ce serait peut-être bon dans notre monde d'aujourd'hui de le faire, hein, d'aborder le problème de cette manière-là. Après l'étude, vous voyez, après l'étude du travail, montrer que le travail nous montre nécessairement que l'homme implique l'unité entre l'esprit et le corps. Et que le travail serait incompréhensible s'il n'y avait pas l'unité entre l'esprit et le corps. Quand je travaille, mon intelligence travaille. Je suis appliqué à mon travail. J'aime mon travail. Donc il y a l'intelligence et il y a la volonté. Il y a une manière de travailler intelligemment. Il y a des intellectuels qui, dès qu'ils travaillent de leurs mains, travaillent bêtement. Ça arrive, ça. Ils sont très intelligents quand il s'agit de la logique. Mais du travail manuel, la cuisine, c'est bête. On dit, mais non, réfléchissez un peu quand même, soyez intelligents jusque dans votre cuisine. Il y a une manière de faire la cuisine avec intelligence, il y a une manière de faire la cuisine bêtement. Et tout comme ça, même balayer. On peut balayer intelligemment, pas trop. N'est-ce pas? Parce que si vous travaillez trop intelligemment, vous réfléchirez à chaque instant la manière intelligente de balayer. Alors ça n'ira plus, n'est-ce pas? Donc il y a une manière intelligente de balayer, une manière bête de balayer. C'est sûr. C'est évident. Tout le travail doit être intelligent, parce qu'il est typiquement humain. Et tout le travail doit être fait avec amour. Il faut comprendre ce que c'est que le travail. Alors on en a l'expérience. Il faut de temps en temps réfléchir sur ce que c'est que le travail, réfléchir sur ce que c'est que le travail. C'est une grande manière d'entrer en philosophie, vous voyez. L'expérience du travail, que nous avons tous, hein, est une manière d'entrer en philosophie, de savoir qu'est-ce que c'est que la philosophie. Eh bien, c'est de regarder l'homme travailleur. Alors, dans le travail, vous avez tout. Vous avez le manœuvre. Il y a des manœuvres intelligentes. C'est vrai. Et même qui sont parfois très intelligents. Regardez ceux qui sont là pour porter les valises à la sortie des trains. Vous voyez tout de suite ceux qui sont intelligents et qui travaillent avec intelligence. C'est une manœuvre. Il y a des gens qui travaillent, ceux qui sont les chauffeurs de taxi. Et on voit très bien, il y en a qui travaillent avec intelligence et d'autres non. Ils sont toujours de mauvaise humeur. Et puis ceux qui travaillent avec intelligence, non. Ils sont de bonne humeur. L'intelligence nous rend de bonne humeur. C'est très curieux. Quand on fait quelque chose avec intelligence, on est de bonne humeur. Faites la cuisine avec intelligence, vous serez de bonne humeur. Ça vaudra mieux pour les autres, ça vaudra mieux aussi pour le résultat, ordinairement. Venez, c'est parce qu'il y a quelque chose. L'intelligence est présente au travail. L'intelligence est présente à la main. L'homme, c'est l'intelligence et la main. Et l'ardeur du cœur. Alors vous avez le manœuvre, vous avez l'artisan, vous avez l'intellectuel qui travaille. Il y a toute espèce de manière de travailler, de modalité de travail. Il faut les voir toutes. Très bonne manière de regarder ça. L'homme travailleur. Faut d'abord regarder tout ça. Puis j'analyse. Hein. Alors je vous donne le fruit d'une analyse du travail. On l'a fait l'année dernière, on ne va pas le refaire maintenant. Mais c'est quand même très intéressant d'y réfléchir. Alors qu'est-ce que nous avons? Je prends le travail dans toute sa plénitude, c'est-à-dire en impliquant toutes ses modalités. Le travail du sculpteur, le travail du manœuvre, le travail de l'intellectuel, le travail de toute espèce. Hein. Vous travaillez intellectuellement quand on vous demande de faire un petit mémoire, un séminaire, hein. un séminaire sur la politique. Vous devez travailler avec intelligence. Et on verra tout de suite si vous avez travaillé avec intelligence. Tout de suite. Alors vous avez donc le premier moment du travail, l'inspiration. Je vous donne le résultat. Je ne fais pas l'analyse ici. Et je pars du travail. Hein, parce que je n'ai pas d'expérience directe de l'inspiration. Puis j'en suis jamais sûr, de l'inspiration. L'inspiration, ça vient à un moment, ça disparaît, parce que c'est tout à fait sûr. Il y a l'inspiration. Le travail poétique, tout travail proprement artistique implique une inspiration. De moi qui travaille ou d'un autre qui me fait travailler. Parce qu'on peut aimer de travailler avec des gens qui sont pleins d'inspiration. Il dit, moi j'ai pas d'inspiration, c'est bien. Je suis né sur une mauvaise planète. Alors, j'ai pas beaucoup d'inspiration, mais j'ai des muscles, ça va. Alors, ça va, j'ai des muscles. L'autre, il a de l'inspiration, mais il n'y a pas de muscles. Alors, c'est très embêtant, il n'arrive pas. Alors, faisons un petit peu, un petit contrat. Lui, il me donnera une partie de son génie, puis moi, je... Alors, tous les deux travaillent, et tous les deux font quelque chose de grand, ils coopèrent. Vous voyez, donc, il y a différents moments. Je ne dis pas que tout travailleur est inspiré. Certains travailleurs sont inspirés, ça c'est vrai. Et s'il n'y avait pas eu d'inspiration du tout, il n'y aurait pas eu de travail. Je crois que le travail a commencé par une inspiration. Et quand vous essayez de comprendre la première manière dont on a travaillé, les mythes sur le travail, les mythes, le mythe du travail, vous savez, le grand mythe du travail, c'est quand on a volé aux dieux le feu. C'est ça, le point de vue du mythe du travail. Le mythe du travail, c'est qu'on a volé, c'est un mythe, le feu, l'inspiration. Parce que s'il n'y avait pas eu le feu, on ne pourrait pas avoir de travail, un travail artisanal, un travail efficace. Alors on a volé au Dieu le feu. Le feu étant toujours considéré par les anciens comme quelque chose de divin. Quelque chose de divin. Alors on l'a volé au Dieu. C'est beau du reste, hein, cette idée du premier mythe du travail. C'est voler au Dieu le feu. L'inspiration, puis le choix créateur. Second moment. Parce que l'inspiration me fait découvrir une quantité de possibles. Parmi ces possibles, il y en a un qui s'impose, qui m'apparaît comme nécessaire. Il y a un possible nécessaire. D'habitude, le possible n'est pas nécessaire. Il y a dans l'œuvre artistique, il y a un possible nécessaire. Et c'est ce qu'on appelle l'idée. Quand vous avez l'idée, une idée géniale. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser et qui s'impose à vous. Parce que c'est génial. Moi, vous dites que c'est génial. Ça s'impose à vous. On verra dans l'exécution si c'est vous génial. Toujours, quand quelqu'un vous dit j'ai une idée géniale, attendons. Puis on voit la réalisation. Et dans la réalisation, vous pouvez dire oui, c'est vrai, c'était génial. Mais si, entre deux, ça avorte, c'est pas génial. On voit juste l'idée. Donc il y a une idée. Le choix d'une idée. Puis ensuite, le choix d'une idée. Ensuite, vous avez le troisième moment. Vous avez l'application de travail. Et dans le travail, vous allez appliquer les méthodes de travail, les outils. Tout ça est impliqué dans le travail. C'est complexe, c'est l'exécution aussi. Jusque-là, je reste au plus intime de moi-même. Quand je vous dis que j'ai une idée géniale, vous ne le voyez pas. Ah, tes yeux brillent, je vois bien. Ça, c'est faux. On ne voit pas du tout. On ne voit pas du tout si on a une idée. Parce qu'il y a des gens qui ont des yeux qui brillent et qui n'ont pas d'idée géniale. Ça existe. On se laisse prendre dans le miroir. Et il y a des gens qui ont des idées. Une idée géniale, ça arrive très bien à le garder intérieurement. Alors, c'est l'idéal. Puis, alors, l'exécution, le travail, la méthode et les outils. Mais le travail va impliquer. Le choix de la matière, tout ça est impliqué, mais ce choix créateur qui porte sur l'idée va commander la matière, va commander les outils, va commander la méthode. C'est pour ça qu'on peut le mettre dans le choix créateur, et puis l'exécution du travail, c'est au milieu de tout ça. Et c'est vrai, quand vous réfléchissez sur la manière dont vous travaillez. Et puis alors, quatrièmement, la. Cinquièmement, l'œuvre. Entre deux, le jugement critique. Si je suis un bon travailleur, j'ai toujours le contrôle de mon travail. Et je suis capable de me juger constamment. Je suis conscient. Je suis conscient que la norme de mon travail, quelle idée ? L'idée est mesure. L'idée dirige mon travail. Quand j'ai une idée, ou un modèle, si vous voulez. L'idée est mon modèle. Je vais bien sûr que je n'ai pas d'idée, je prends un modèle extérieur. Alors c'est une copie. Je me réfère à un autre. Étant donné que je suis sans aucune inspiration, mais il y a des choses géniales qui ont été créées avant moi, je vais les copier. Là, je me mets en subalternation à l'égard d'un modèle. Mais je peux aussi créer un nouveau type de modèle. Et alors, c'est l'idée. L'idée joue le rôle de modèle de mesure. Et alors, je peux tout le temps critiquer pour voir si ce que je réalise est en conformité avec l'idée. Et ça, le jugement critique. Puis, il y a l'œuvre. Alors, il y a quelque chose. C'est facile à comprendre. Mais c'est le travail qui est, au point de vue de l'expérience, très fort, c'est le travail. Le travail implique une expérience interne et externe. Il y a deux dans le travail. Il y a une expérience interne. Je sais très bien que je travaille. Et mon travail me fait toucher la réalité. Me fait toucher la matière. Une expérience de la matière par le travail. Une expérience type de la matière. Je sais que je transforme cette matière. Je sais que cette matière est capable d'être modifiée. Et j'ai l'œuvre qui termine. Bon. Dans cette analyse, vous voyez, ça, c'est une phase immanente, interne. C'est pour ça que l'expérience que j'ai de l'inspiration, est une expérience purement interne. Je ne pourrais pas commencer la philosophie par l'inspiration. C'est une expérience purement interne. L'expérience que j'ai touchée avec le créateur, c'est aussi purement interne. Donc c'est un immanent au vivant. tandis que le travail me fait toucher quelque chose qui est extérieur à moi. C'est en ce sens-là, les psychologues ont parfaitement raison de dire que le travail, l'application de l'autre, rectifie. Ça rectifie quelqu'un. Ça supprime l'imaginaire. Parce qu'avec le travail, je touche la réalité. Je la touche plus ou moins, parce qu'évidemment, c'est surtout le travail manuel. Le travail manuel me fait toucher la réalité. Parce que quand il s'agit du travail mathématique, ça, plus difficile à rejoindre la réalité immédiatement. Hein. Alors à ce moment-là, je peux très bien continuer de que j'étais d'une façon immanente. Mais dans le travail manuel, je touche la matière. Il y a un contact avec la matière. Et parce qu'il y a un contact avec la matière, il y a donc une expérience non seulement interne, mais externe. Vous voyez, ici, c'est donc encore quelque chose de purement interne, du point de vue du jugement critique. Et ça, c'est réflexion. C'est une réflexion. Donc c'est une expérience qui présuppose toujours autre chose. Il faut déjà avoir à travailler pour critiquer. Et seul le travailleur peut vraiment se critiquer. Il y a une espèce d'autocritique qu'on fait dans le travail. Si on est intelligent, on fait une autocritique à chaque instant. On dit, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Et si vous travaillez comme un fou sans tenir compte de rien du tout de ce que vous faites, heureusement il y aura quelqu'un là, vous dites, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous voulez aller? Vous ne voyez pas que vous avez déraillé depuis là? Alors, c'est pour empêcher le déraillement, ça. Oui, alors c'est le jugement critique. Le jugement critique que je fais sur balayer une salle. On vous demande de balayer une salle. Bon, vous balayez largement, ou vous balayez pieusement, vous entretenant. Très très bien, vous balayez très pieusement. Alors, en balayant très pieusement, vous avancez. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Ou je prie? Je ne sais plus, parce que si la prière est forte, vous voyez, le balai est suspendu. Il y a une élévation du balai. Alors, cette élévation du balai fait que, à ce moment-là, la finalité du travail n'est plus réalisée. Parce que le travail demande d'arriver à une heure. Le jugement critique, je m'arrête. Je dis, ah tiens, oui, c'est vrai. C'est pas l'heure de prier, c'est l'heure de travailler. Je peux prier en travaillant, mais je travaille. Vous voyez, c'est la finalité. Alors ça, c'est la réflexion critique qui est très importante. Et puis, le point de vue de l'œuvre, je retrouve le point de vue extérieur. L'œuvre est autre. L'œuvre, c'est l'autre. Vous voyez, il y a la matière qui est l'autre, et l'œuvre est l'autre. Mais l'œuvre, c'est l'autre habité par ma pensée. C'est l'autre habité par ma pensée, c'est la matière première donnée qui est transformée par ma pensée, donc qui est habitée par ma pensée, qui a quelque chose de nouveau, elle exprime quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose qui est très important, je vais simplement signaler là encore, hein, parce que nous sommes là pour rappeler des choses présupposées connues. Ceux qui n'ont pas vu le cours l'année dernière, c'est nouveau, mais c'est facile à comprendre, hein. Inspiration, choix créateur, le point de vue de l'exécution du travail, le jugement critique et l'œuvre. Bon. L'activité artistique est toujours une activité pour l'homme qui est parallèle à l'activité morale. Autrement dit, je porte toujours en moi deux jumeaux. L'activité du facere, c'est celle-ci, en latin. L'activité du facere, c'est-à-dire de la réalisation pratique, et l'activité de l'agere. L'activité de l'agere, c'est-à-dire l'activité morale, notre cours éthique. Il faut toujours les deux en parallèle. Quand vous creusez l'éthique, vous creusez le facere. Quand vous creusez le facere, vous creusez l'éthique. Alors on peut établir ce parallélisme, et c'est intéressant à faire. On peut établir ce paradigme. Vous voyez, l'inspiration. Avant l'inspiration, qu'est-ce qu'il y a? Avant l'inspiration, normalement, il y a une expérience artistique. Les artistes, ils ont une sensibilité spéciale. Ils ont une sensibilité spéciale. Ils sentent des tas de choses. Il y a des gens qui ont un ouïe extraordinaire. Je connaissais quelqu'un qui avait une musicienne du bout des oreilles. Hein. Au bout des doigts, une musicienne, elle entendait les vers qui travaillaient le bois. Réellement, réellement, on l'a fait plusieurs fois et on a constaté. Le verre qui vous, vous entendez, hein, il y a un verre là qui est en train de manger ce bois. Et attendez, c'est ce petit verre rongeur. C'est extraordinaire, la cuité de la tête de Louis. La cuité de Louis, il peut aller très loin. La cuité de la vue, la cuité du toucher. L'artiste, c'est celui qui, justement, avant l'inspiration, a cette expérience artistique du milieu dans lequel il se trouve. C'est pour ça que les artistes sont si sensibles au milieu. Et dès qu'il y a un champignon, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils sont très sensibles. Alors que, habituellement, on fait avec. Hein. Tandis que l'artiste, c'est très difficile de faire avec. Il réagit violemment. Tout de suite, tout de suite. Alors, parallèlement, vous voyez, comme il y a l'expérience artistique qui est première, au moyen d'agir, il y a un premier amour. Je pense que c'est très intéressant de considérer les deux premiers. L'expérience artistique et l'amour. Parallèlement à l'inspiration, je ne comprends pas, l'intention. L'intention de vie. C'est pas la même chose du tout. L'inspiration vous permet d'avoir des projets. C'est très curieux de voir qu'aujourd'hui, il y a une contamination du moral par l'artiste. C'est tout le problème de Sartre. Et sans le savoir, on se laisse prendre. On peut dire que Sartre, c'est la contamination du fat chéré sur la durée. C'est le fat chéré qui domine. À la suite de Nietzsche. Chez Nietzsche, c'est très net. Il n'y a plus que le fat chéré. L'agir est bon. Alors si vous voulez, vous pouvez voir aussi autre chose. Vous verriez par exemple dans la moralisation d'une famille ou d'une communauté où l'agir contamine le matériel. Ici on ne cherche que la vertu. Peu importe que la soupe soit brûlée, ça n'a aucune espèce d'importance. Elle a été brûlée pieusement. Vous voyez, c'est l'agir qui contamine le fat chéri. Mais il peut très bien arriver. Bien, non, je ne comprends pas, cette soupe, elle ne devait pas brûler parce que j'avais mis de l'eau bénite dedans. Donc ça ne devait pas. Elle ne devait pas brûler. Vous voyez, alors c'est l'agir qui contamine le fat chéri. Parce que le fat chéri a ses exigences propres. À ses lois propres, le fatigué a ses lois propres, et l'agir a ses exigences propres. Il y a des principes propres des deux côtés. Et les principes propres des deux côtés, on doit les respecter au point de vue humain. On n'a pas le droit de les contaminer. Ça, c'est très très important, ça. C'est tout le problème très très difficile de savoir de la moralisation de l'art. Hein. Est-ce que l'art est moral? Est-ce que l'art doit-il être moral? Dans quelle mesure? C'était très très délicat. Alors, avant de problème, ces problèmes-là, on les traitera. Parce que ce sont des problèmes très actuels et qui sont très importants. Mais avant de traiter ces problèmes-là, il faut analyser philosophiquement ce que c'est le fat chéré et voir que le fat chéré a ses exigences propres, ses causes propres, et analyser l'agir. Donc, parallèlement à l'inspiration, vous avez l'intention de vivre. Parallèlement au choix créateur, vous avez le choix, l'élection. Vous choisissez le moyen. Parallèlement au travail, vous avez du permis. Fais ceci. La dernière décision. La décision ultime. Toujours le réveil, il ne faut jamais oublier. Le réveil qui me dit « Lève-toi !» Quand il se met à sonner, c'est un signe qui vous dit « Lève-toi !» C'est l'impérium, ça. C'est l'impérium qui vous oblige de vous remettre au travail. C'est la cloche. Chaque fois que la cloche sonne, c'est l'impérium. L'exécution. Et à partir de là, il faut exécuter. Il n'y a pas à choisir, il n'y a plus qu'à exécuter. Alors, c'est le parallèle. Vous dites qu'il n'y a pas d'impérium dans l'activité artistique. C'est très curieux. Ça explique des quantités de choses. Ça explique de quelques fois, vous avez l'impression que des artistes, ils sont paresseux. Très joli. Et d'autre part, ils ont quelque chose qui leur commande de façon beaucoup plus impérative, c'est que le choix de l'auteur demande immédiatement l'exécution, sans passer par une période. Vous avez ensuite une période. Il n'y a pas de jugement critique du côté moral. Parce que l'activité morale demande d'être lucide. Alors le jugement critique est tout le temps présent. Il n'y a pas de jugement critique. Transporter un jugement critique dans l'activité morale, ça vous paralyse. C'est le scrupule. Il y a des gens qui sont scrupuleux. Qu'est-ce que c'est que le scrupule? C'est perpétuellement réfléchir sur votre activité morale. Ah, peut-être que je me suis trompé. Ah, peut-être que je vais. Alors à la place d'avancer, vous reculez. Ça n'avance pas du tout. Et c'est le jugement critique, vous voyez, qui existe au niveau du fatiré, qui intervient du côté de la jeune. C'est très très curieux de voir les contaminations de l'un par rapport à l'autre. Et c'est très intéressant, ça explique des quantités de choses. Alors, quatrièmement, l'império, vous avez ensuite, vous avez le point de vue de l'usage, l'application. Vous commandez, faites ceci, vous exécutez et vous usez de vos facultés. Vous écoutez un cours. Écoutez un cours, une activité morale. C'est aussi une activité qui va te chérir. Et les deux sont très très impliqués. Hein. Faire la cuisine par devoir. On m'a demandé par obéissance de faire la cuisine. Je fais la cuisine par obéissance. Ouais. Faire par obéissance, c'est l'agir. Faire la cuisine, c'est du fâcheré. Donc en vous demandant de faire la cuisine et en vous demandant et que vous exécutez dans l'obéissance, vous devez vous dire que la vertu d'obéissance ne vous rendra pas intelligent pour faire la cuisine. Vous devrez apprendre à faire la cuisine. Vous n'allez pas dire, puisque je le fais par obéissance, Dieu m'aidera. Non. Vous devez être intelligent pour le faire. Parce qu'il y a un élément de fatchéré qui est laissé à votre propre arbitre. Mais vous devez comprendre que, évidemment, il y aura la grâce pour aller plus vite. Alors vous avez donc l'usage ici, parce qu'il n'y a pas d'œuvre. L'adjéré ne se termine pas dans l'œuvre. Il se termine dans l'opération elle-même. Il se termine dans l'œuvre. Normalement, la joie d'avoir réalisé ce qu'on devait faire. On est joyeux. Mais il n'y a pas d'œuvre. Alors, vous voyez, il y avait quelque chose de très intéressant à faire, une fois qu'on a vu le parallélisme de cette manière. Il y a quelque chose de très intéressant à faire, c'est de voir les activités, les moments qui sont caractéristiques de fatchéré et les moments où il y a un parallélisme à faire. Donc, les contaminations et au contraire, les extériorités. Il ne s'agit pas de faire une dialectique d'opposition entre les deux. Il s'agit de comprendre que les deux sont constamment en coopération. Et l'examen de conscience philosophique consiste à voir si dans nos activités de chaque jour, le fatchéré est bien en place et l'agiré est bien en place. Et qu'il n'y a pas de contamination de l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas d'amalgame. Il y en a vite. Hein? Il y en a très très vite, je vous dis. Prenez deux philosophes contemporains où il serait très intéressant de voir les amalgames. Sartre. Sartre, c'est le fatchéré qui engloutit l'agir. Gabriel Marcel. C'est l'agir qui engloutit le fatchéré. Vous savez, il y a un théâtre de Gabriel. Perdre, lisez le théâtre de Gabriel Marcel, ça vaut la peine de temps en temps. Parce que vous voyez tout à fait le petit salon bourgeois, vous savez, dans lequel le fauteuil est resté là depuis 50 ans même, on enlevait un peu la poussière tous les jours, déjà, mais c'est resté exactement le même, et on voit la chose. Et c'est vraiment l'agir qui l'emporte sur le fatchéré. Et la rivalité entre Gabriel Marcel et Sartre provenait que Sartre avait du succès dans ses scènes, dans son théâtre. Parce que Sartre est beaucoup plus artiste que philosophe. Et Gabriel Marcel, je ne dis pas qu'il est plus philosophe qu'artiste, il est plus homme honnête, homme moral, que artiste. Et c'est là l'erreur. Hein. Quand on est un homme moral, il vaut mieux pas écrire. Tu vois, il vaut mieux pas écrire. C'est la vie aux amateurs. Hein. C'est vaut mieux pas. Parce qu'on écrit des choses pieuses, vous voyez. Alors, si on est mystique, très bien, on écrit. Mais si on ne l'est pas, il vaut mieux pas. Parce qu'on n'a pas le génie, l'inspiration. Vous n'avez que l'amour. Et tout le théâtre de Gabriel Marcel, c'est bien. C'est la présence. La présence de celui qui est l'absent. C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'amour est au-dessus de la présence et de l'absence. Donc c'est pas l'inspiration, c'est un amour. Alors l'amour ne donne pas l'inspiration. L'amour peut être source d'inspiration, mais l'amour en lui-même n'est pas l'inspiration. Parce que l'inspiration est de l'ordre de l'intelligence. Alors vous avez donc cette opposition très nette. Le point de départ du fait chez c'est l'expérience. Ce qui montre que tout de suite l'activité du facere est une activité beaucoup plus intellectuelle. Le point de départ de l'agir, de l'activité morale, c'est l'amour. Il n'y a pas d'activité morale sans amour. Il n'y a pas d'activité du facere sans une expérience. Et ça, vous le voyez tout de suite. Sans l'intelligence. Le facere fait des gens intelligents. L'agir fait des gens qui développent leur cœur. Alors il faut les deux, hein, mais il ne faut pas confondre. Puis alors vous voyez ce fait que l'imperium, hein, qui est une activité si importante, fait ceci. Quand j'ai décidé, la dernière décision, hein, elle n'existe pas du côté de l'artiste. C'est très curieux ça. C'est pour ça que si facilement l'homme moral considère l'artiste comme un homme capricieux. Il ne travaille qu'à certains moments, quand il est en état de grâce. Moi, je travaille quand je suis en état de grâce, point de vue artistique. Hein. Donc, quand j'en ai. Et c'est vrai, quand il s'agit d'écrire quelque chose, c'est très difficile d'écrire quelque chose quand c'est à froid. Vous êtes bien obligé les jours d'examen. C'est pas inspiré du tout. Parce que c'est l'impérium. Il faut faire ceci, il faut le faire, à tout prix de faire. Mais il n'y a pas d'impérium du côté artistique. Il n'y a pas de jugement critique du côté moral. Il n'y a pas d'œuvre du côté moral, il y a une œuvre du côté artistique. Autrement dit, le travail me fait comprendre ce que c'est que l'efficacité et le point de vue de l'amour me fait comprendre ce que c'est la finalité. Alors vous avez ici deux clés très importantes à saisir. La source de l'efficacité, la source de la fécondité. Et c'est deux choses qui sont toujours à voir en parallèle. Fécondité et efficacité. Parce que c'est deux aspects tout à fait différents. Alors, au point de vue philosophique, c'est un très très gros problème. Je crois que c'est au cœur de tous les problèmes actuels. Vous savez, tous les problèmes actuels, c'est le point de vue du facere, le point de vue de la jeunesse. C'est au cœur de toutes les idéologies athées, ça. Le marxisme, c'est le primat du facere. Et l'agir disparaît complètement. L'agir, c'est-à-dire le point de vue de la personne humaine, disparaît. L'amour disparaît. On n'en parle plus. On ne voit plus que l'efficacité. Dans le capitalisme, c'est la même chose. Hein. Quand Saint-Père met en parallèle les deux, il a raison, parce que des deux côtés, c'est l'efficacité qui domine. Et ce n'est plus la dignité de l'homme qui domine. Alors, c'est quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus, c'est qu'on doit dépasser l'efficacité pour rechercher les liens personnels dans l'amour et respecter le point de vue de la fécondité. La fécondité ne peut pas être mesurée par l'efficacité. La fécondité, elle est liée à l'amour, directement. Tandis que l'efficacité est liée au travail. Et pour que le travail soit plus efficace, on prend des outils. Et pour que les outils soient plus efficaces, on prend une méthode. Plus l'outil est fort, plus la méthode est importante. Et plus l'outil est fort, plus c'est nécessaire l'efficacité. Regardez ça, on voit très bien. Le passage des trains anciens au TGV. C'est remarquable, ça. On voit très bien que l'outil a changé. Complètement changé. Pour une plus grande efficacité. C'est-à-dire une vitesse plus grande.
vous faites des propagandes admirables, il faut gagner le temps sur le temps.
C'est extraordinaire, ça.
On va très bien le point de vue de la rapidité, parce que le point de vue de la rapidité, c'est dans l'ordre d'efficacité. La qualité d'efficacité, c'est la rapidité. Ça, c'est sûr. C'est la rapidité qui est une qualité dans l'efficacité. Alors, à un moment donné, attention, si l'efficacité va trop vite, alors à ce moment-là, on risque de faire du gâchis. Donc, il y a un jugement critique là-dessus. Il faut que l'efficacité soit selon le rythme de l'œuvre. Et c'est l'œuvre qui mesure. C'est important de saisir ces différents moments de l'agir et du facere et comprendre qu'il y a un respect qu'il doit avoir d'un côté comme de l'autre. Or, nous avons vu que du côté de l'agir, il y a l'imaginaire qui fait les carambolages. Du côté du facere, il y a aussi l'imaginaire. L'imaginaire est commun aux deux. Et ce serait très intéressant d'étudier comment l'imaginaire vient corrompre l'inspiration. L'imaginaire corrompt l'inspiration, comme il corrompt l'amour. L'inspiration trop imaginaire n'est plus une inspiration. Et on ne pourra rien réaliser. Sur l'imaginaire, vous ne pouvez rien construire. C'est du sable mouvant. On ne construit pas. On croit construire, on ne construit pas. On ne peut construire que sur l'inspiration qui nous donne des possibles. C'est beaucoup plus intellectuel. Alors, possibilité de corruption de l'inspiration par l'imaginaire. Ici encore, possibilité de corrompre le choix créateur à l'imaginaire. Possibilité de corrompre l'exécution. Autrement dit, vous avez les trois mêmes sources de corruption. De l'agir et du facere. Et c'est l'imaginaire. Alors comprenons bien, ça ne veut pas dire que l'imaginaire est mauvais. Pour qu'il y ait inspiration, il faut l'imaginaire. Pour qu'il y ait intention, il faut l'imaginaire. Je ne peux pas aimer sans imaginaire et je ne peux pas réaliser quelque chose dans l'ordre de l'inspiration sans l'imaginaire. Mais attention, quand l'imaginaire est trop grand, qu'il déborde, il vient corrompre l'amour et l'inspiration. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'acquérir un habitus, comme il est nécessaire d'acquérir la vertu. Alors ici, on va acquérir la vertu. Ici, on va acquérir ce qu'on appelle l'habitus d'art. Que nous verrons la fois prochaine. Comme ça, on verra en parallèle vertu et habitus d'art. Le cours d'éthique et le cours de sur le point de vue du facere. Parce qu'il faut, je crois, toujours les voir en parallèle. Ça nous fait comprendre la dimension propre de l'homme, vous voyez. L'homme a toujours en lui, pour être vraiment un homme, ces deux aspects qui doivent se développer parallèlement. Prenez l'image, si vous voulez. Hein. Quand dans une forêt, vous voyez un tronc et une souche et deux grands troncs qui poussent. C'est exactement le facere de la jolie. Ça ne se rencontre pas, ça doit rester dans sa structure propre, mais c'est uni dans l'homme. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit.